Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassaigne, je serai avec vous pour la prochaine demi-heure. Au sommaire de l'émission, à Winnipeg, on doit pédaler pour avoir droit à sa bière au Pedal Pub, un concept importé des États-Unis et d'Europe.
Les vélos sont immenses, fait qu'ils prennent toute une voie de la route de la ville de Winnipeg. On savait que dès le début, on devait avoir le support de la ville de Winnipeg, la province du Manitoba. On s'est assuré que la ville allait vraiment bien supporter le projet.
La nouvelle du départ de la militante franco-ontarienne Gisèle Lalonde a traversé le pays dans son entier. Les hommages fusaient de toutes parts en Ontario.
C'est une femme exceptionnelle. Ce qu'elle a fait pour ses concitoyens tout au long de sa vie, la bataille pour Montfort, SOS Montfort, qui a eu des répercussions sur la francophonie à travers le Canada, je pense que ça a vraiment changé l'histoire. Les gens ont davantage, la volonté de se battre pour leurs droits et pour que la francophonie soit vivante en Ontario.
Et la poésie s'invite dans les villages isolés de la Basse-Côte-Nord, dont celui de Tête-à-la-Baleine. L'écrivaine Noémie Pomerleau-Cloutier en fait l'éloge avec ces mots.
En fait, surtout en Basse-Côte-Nord, là, je le dis tout le temps, les gens s'en rendent pas compte, c'est vraiment des poètes. Là. Ils vont te raconter des histoires, puis t'es comme, j'ai rien besoin de changer là-dedans. Les gens en Basse-Côte-Nord, c'est des vraiment bons conteurs, puis ils ont été habitués, tu sais, dans leur famille, d'avoir des gens qui racontaient des histoires.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien, cet été, vous pouvez garder la forme tout en l'usant un peu, faire du vélo tout en sirotant sa bière de microbrasserie. Voilà l'idée mise de l'avant par les copropriétaires du Pedal Pub de Winnipeg. À bord du Vélo Pub, les clients se rendent aux terrasses des plus sympathiques microbrasseries du secteur pour étancher leur soif et se déculpabiliser tout en faisant un petit peu d'exercice. Le projet est né de l'initiative de trois amis d'enfance, tous franco-manitobains. Il s'agit de Miguel Gauthier, Raylan Adam et de Brandon Gwinter. Une activité à la fois physique et gourmande dont le concept fait mouche depuis 1997, notamment aux États-Unis. Les trois franco-manitobains sont très excités à l'idée d'avoir mis en place la première entreprise du genre à Winnipeg. Aurélie Nana Forsen a rencontré Miguel Gauthier, copropriétaire du Pedal Pub.
C'est que ça a été vraiment un coup de chance. Honnêtement, là, c'est pas quelque chose qu'on a planifié depuis 10-15 ans. C'est nous autres, on a... C'est Rylan, puis Brandon et moi, on a tous les trois, en fait, grandi ensemble. Et puis, l'été dernier, Rylan était aux États. Et puis, il faisait un voyage avec ses amis. Puis, il a vu ce vélo-là, il a croisé la route. Puis, je pense que 15 minutes après qu'il a vu le vélo, il m'a appelé. Puis, il m'a dit, hey, il faut qu'on commence ça. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il y a quelqu'un qui a pas commencé ça à Winnipeg encore. Il faut qu'on fasse ça. Et puis, il est de retour de chez nous 3 jours après son voyage. Puis, on a commencé à faire des appels. So, on a été assez convaincus dès le début que ça allait bien fonctionner ici. Puis ça a été aussi simple que juste faire quelques petites recherches. Puis on a été très chanceux d'être premiers en ligne pour se procurer de cette franchise-là. T'sais, les vélos sont immenses, fait qu'ils prennent toute une voie de la route de la ville de Winnipeg. So, on savait que dès le début, on devait avoir le support de la ville de Winnipeg et la province du Manitoba. So, on s'est assuré que la ville allait vraiment bien supporter le projet puis qu'elle allait être contente de l'avoir. So, on a commencé ce processus ici le mois d'août, le mois de septembre de l'an dernier, ça fait presque un an. Et puis, la ville de Winnipeg savait qu'on venait depuis le mois de novembre. So, on a communiqué avec eux très, très tôt dans le processus. Puis, je pense qu'ils ont apprécié ça, puis ça nous a permis de développer une vraiment belle relation avec eux autres. Puis, ils ont suggéré des nouvelles routes, ils ont suggéré des différentes affaires à faire. Puis, ils ont pu communiquer avec les polices, puis l'assurance publique Manitoba. So, on a développé des vraiment bonnes relations avec tous ces groupes-là. So, les choses vont vraiment bien.
C'est vraiment un travail d'équipe, finalement, avec tout le Manitoba.
Oui.
Avec la ville de Winnipeg, c'est génial.
Oui, c'est ça. So, parce que c'est quand même un gros projet qui demande, tu sais, on passe pas vite sur les routes. So, on ralentit le trafic, qui est vu, en fait, comme un bénéfice de l'entreprise parce qu'on passe dans des coins de la ville où ce que la ville de Winnipeg veut vraiment transformer ça dans des lieux pédestres plutôt que des lieux routiers pour les véhicules. So, un point bonus pour nous autres, c'était qu'on allait ralentir le trafic dans les lieux où est-ce que les gens voulaient marcher puis prendre leur vélo. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, quand on a commencé ça, on se disait que le plus gros défi allait être la ville de Winnipeg puis l'infrastructure courante. Puis ça a été, en fait, le point plus facile pour nous autres.
Pensez-vous que vous allez intégrer un service bilingue à Pédale Pub? Ou...
Non, déjà, on offre un service en français. So, on a des, ce qu'on appelle des pilotes, c'est nos employés qui conduisent les vélos ou qui sont en contrôle du vélo, en tout cas. So, là, on a déjà, tu sais, 3, 4, 5 pilotes qui sont bilingues. Tu sais, moi, je suis bilingue. Randy aussi, notre gérante, est bilingue. So, pour moi, ça a été un fait assez important de, quand on a commencé ça, c'était de leur dire à mes partenaires que, tu sais, la francophonie à Winnipeg est quand même assez vibrante puis qu'on veut bien représenter ça puis qu'on veut offrir ce service-là quand les gens le demandent. Nous autres, on s'amuse juste à faire ça puis de tu sais, voir des sourires sur les vélos. So. So, nous autres, on est rentrés dans un nouveau monde complètement. Tu sais, nous autres, Brandon, c'est un gérant il vend des voitures. Et puis, Rylan, c'est un comptable. Puis moi, je travaille en télé. So, nous autres, c'est une industrie qui est comme complètement différente. So, pour nous autres, on rentre là-dedans puis on commence à développer des relations avec des microbrasseries, des restaurants, des nouvelles, tu sais, des gens super créatifs en boissons. Puis là, en plus de ça, tu crées des nouvelles amitiés avec tes pilotes ou avec les gens qui montent sur les vélos. Tu sais, de temps en temps, tu marches. Moi, j'ai passé à Princess Auto il y a quelques semaines, puis je portais mon chandail pour le pub. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a arrêté et dit « Hey, oh my God, j'ai fait ça il y a 2 semaines, c'est comme best time ever. » So, les relations que tu peux développer avec les gens, là, c'est devenu, c'est for sure ma partie préférée, en tout cas personnellement. Là. Mais vous pouvez choisir en 2 routes, on offre 2 différentes tournées, soit une dans le quartier de la Bourse, puis là, une dans le quartier d'Osborne. So, les gens peuvent choisir une ou l'autre. Puis là, ensuite, quand ils choisissent la tournée qu'ils veulent faire, tout se fait en ligne entre le Canada puis les États. Je pense qu'on est rendu au-delà de 50 différentes villes qui ont ces vélos-là. Puis au Canada même, on est rendu à 5 à 7. Ouais, on n'aura pas pu demander mieux pour nous autres. Là. Ça va vraiment bien.
Et on vous souhaite le meilleur des succès.
Right on. Merci beaucoup, Aurélie.
Bonjour à tous. Ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
La poétesse québécoise Noémie Pomerleau-Cloutier était de passage dans le sympathique village de Tête-à-la-Baleine, en Basse-Côte-Nord. Un arrêt de plus dans le cadre de sa tournée de promotion, la tournée de promotion de son plus récent recueil, « La patience du Dickens ». L'autrice est venue le présenter à ceux et celles dont elle s'est inspirée pour l'écrire. Elle a donc rencontré des baleinoises et des baleinois lors d'un 5 à 7 le 28 juillet dernier, près des bateaux de bois qui reposent aux côtés du quai fédéral de ce village d'une centaine d'habitants. Elle y a lu des extraits de son livre, en plus d'inviter les gens à partager leur histoire, leurs anecdotes, mais aussi leurs poèmes. Elle s'est, au lendemain de ce 5 à 7, rendue au bureau de poste pour partager des petits bouts de ses écrits avec Jeanne d'Arc Monger, la maître poste, qui ne pouvait à regret assister à l'événement, mais aussi pour aller à la rencontre d'autres résidents du village. Et notre journaliste Pénélope Clermont en a profité pour la suivre et nous proposer ce documentaire par lequel vous pourrez vivre quelques moments de sa visite au village. On est jeudi, il est 17h30, le soleil brille sur le quai fédéral de Tête-à-la-Baleine où se trouvent les 2 bateaux de bois et où on entend le cliquetis des vagues.
J'en profite. Comment je vais avoir tes impressions sur le 5 à 7 d'hier?
C'était vraiment agréable. En plus, honnêtement, je pense que c'est la plus belle scène pour lire de la poésie au Québec. Là. Fait que n'en déplaise au Festival de poésie de Caraquette qui a lieu en ce moment, là, je pense que c'était la Tête-à-la-Baleine, la plus belle scène.
Oui, parce qu'on était sur le plaqué à côté des 2 bateaux de bois, ouais, près du quai fédéral. Là.
C'est ça, exactement. Puis même Bella est venue nous visiter. Là, il y a du trafic, là. Donc, c'est ça, Bella est arrivée pendant qu'on finissait la lecture. Bon, c'était super agréable. Aussi, on a jasé avec les gens. Puis on a appris plein de choses sur commencer, grandir à Tête-à-la-Baleine, hein, et quitter Tête-à-la-Baleine et revenir.
Ouais. Fait que,
j'aurais pu écrire un autre livre juste avec ce qui s'est passé hier, je pense.
C'est vrai, les anecdotes. Oui, on a eu des belles discussions avec...
Oui, c'est ça. Non, c'était super agréable. Public très attentif, puis moi, j'étais vraiment contente de voir ces personnes-là. Puis, comme je disais, c'est la plus belle scène pour lire. Je pouvais pas demander mieux. Dans les villages, l'hiver goûte la liberté, les journées au grand air, le poisson cuit au feu de bois, les fins de semaine de carnaval. La neige et la glace conservent les liens au chaud. La route fond chaque printemps. L'héritage qui se passe entre mâles, c'est à elle la plus jeune que son père veut le donner. Elle ne peut pas encore aller les cages à la force de ses bras, mais elle sait la richesse du corail. Comme le homard, elle a toute sa vie pour muer.
Fait que là, Noémie, on s'en va au bureau de poste pour que tu lises quelques passages de ton recueil à Jeanne d'Arc, la maître postière.
Oui, parce qu'elle pouvait pas être au 5 à 7 poétique hier, puis j'y ai promis. Mais je pense qu'elle a pensé que c'était une blague, mais moi, j'étais sérieuse.
Oui.
La poésie, c'est sérieux.
Là, on vient d'arriver au bureau de poste.
Oui!
Alors, je te laisse entrer.
Point central du village.
Léo, le chien qui nous accompagne, est déjà prête. Ah, oh, il y a un autre petit chien là-dedans en passant.
Léo est plus proche que moi. Bon. Allô, je viens te lire ma promesse. J'avais dit que je viendrais te lire de la poésie. Ce n'était pas une blague, hein? Avoue que t'as pensé que c'était une blague, hein? Les soirées à grandir entre amis sur le pont à côté du magasin, sous la danse des lueurs. Vos parents les menacent. Les lumières dans le ciel, c'est des marionnettes. Ils vont vous arracher la tête si vous restez dehors trop tard. Les aurores boréales ne tuent pas. En arrivant en ville, on meurt par morceaux de ne plus les voir.
C'est tellement vrai, puis on n'en voit plus comme on en voyait quand j'étais jeune. Malgré que j'étais encore jeune, mais jeune. Dans le temps où qu'on croyait qu'on allait se faire couper la tête.
Oui, les parents vous disaient vraiment ça. Hein?
Ben nous autres, dans mon temps, c'était pas mes parents. Je te dirais que c'est plus les plus vieux du secondaire, là, que ça nous fait peur. Là.
Dans le ventre d'acier de Bella, je m'allonge. Je ne sais pas ce qui me fait tanguer, comme un trop-plein du vide à venir, laissé par tout ce que je quitterai en mettant pied à terre. Je me demande si les bateaux ont un cœur. Je suis certaine que oui. Ils en ont peut-être même plusieurs. Le leur et ceux de toutes ces vies qu'ils transportent. La circulation sanguine est d'une vague, après tout. Hey, mais merci beaucoup, hein?
Hey, merci à toi.
Ça m'a fait vraiment plaisir de vous.
Moi, j'avais pas lu ton livre, puis je suis pas tellement dans la poésie. Je connais pas ça, mais ça m'a fait plusieurs fois des frissons. Là,
c'est... Hey, tellement.
Mais ça, c'est parce que c'est toi le meilleur public. C'est vrai? Parce que les gens, ils ont des fois, tu sais, « Ah oh non, j'aime pas ça, la poésie. » Puis, en fait, surtout en Basse-Côte-Nord, là, je le dis tout le temps, les gens s'en rendent pas compte, c'est vraiment des poètes. Là. Ils vont te raconter des histoires, puis t'es comme « J'ai rien besoin de changer là-dedans. » Puis, tu sais, la poésie, il y a des gens qui ont peur de ça, mais c'est ça. Les gens en Basse-Côte-Nord, c'est des vraiment bons conteurs, puis ils ont été habitués, tu sais, dans leur famille, d'avoir des gens qui racontaient des histoires.
Tu fais de la poésie.
Mm-hmm.
On sait qu'en Basse-Côte, il y a de grands poètes qui s'ignorent.
Oui, vraiment.
On va se le dire, là, c'est pas full aux événements poétiques.
Non.
Il y a pas des tonnes de gens qui se déplacent. En plus, à Tête à la Baleine, bon, il y a le phénomène des gens qui sont au large, d'autres au village, d'autres tout ça.
Des gens qui sont avec leur famille en ce moment,
qui a beaucoup de visites.
Plus, il y a la méchante COVID qui s'est invitée.
Exactement.
Il y a des gens qui sont assignés à résidence, disons.
Comment tu composes avec l'intérêt plutôt timide des gens envers la poésie?
Ben, en fait, c'est moi, je suis venue pour présenter le livre qui a été écrit avec les histoires des gens, tu sais. Puis quand je l'ai fait, ben je me suis adaptée à l'horaire des gens. Fait que quand je viens de présenter, je m'y adapte aussi, tu sais. On pouvait pas prévoir. Par exemple, il y avait moins de gens que prévu, mettons, à Pacoachipi, parce que le pape était venu en même temps. Mais quand on avait prévu ça, le pape, on savait pas qu'il arrêtait au Québec, tu sais. Puis qu'il arrêtait au Québec en même temps que moi. Fait que moi, contre François, c'est difficile. Mais non, c'est ça. Tant que j'en parle à quelques personnes, qui, elles, vont en parler à quelques autres personnes, qui, elles, vont en parler à d'autres personnes, moi, ça me va. Tu sais, la poésie, les gens ont souvent peur. Parce que c'est à tort, c'est associé à l'élite, tu sais. Il faut avoir fait de l'université pour comprendre la poésie. Tu sais, c'est juste pour les pelleteux de brou ou les pelleteux de nuages aussi. Mais les gens en Basse-Côte-Nord, ils ont beaucoup d'histoires à raconter. Puis dans leurs histoires, c'est super, c'est toujours très poétique, tu sais. Ça ne rentre pas compte, mais t'es pas obligé de l'écrire, la poésie, tu peux aussi juste la raconter. Fait que moi, si les gens peuvent comprendre ça, c'est déjà pour moi quelque chose d'important.
Mm-hmm.
C'est juste le fait d'être là puis de jaser avec les gens, c'est de passer la poésie aussi parce que ça montre que non, un poète, ça n'a pas toujours un foulard, ça n'a pas toujours un béret, c'est pas toujours assis.
T'avais une tuque, ceci dit.
Oui, mais bon, c'est ça. Non, t'as pas vu mon foulard, là, je l'avais pas amené.
Oui, c'est vrai.
J'avais pas non plus ma bouteille de vin, puis ma chandelle, puis mm-hmm. Mon âme torturée en train d'écrire le soir. Non, c'est ça que, tu sais, un poète, ça vit dans la vie, là.
Et l'avantage des plus petits nombres de spectateurs, c'est que les rencontres sont individuelles. Il y a des discussions peut-être encore plus approfondies s'il y avait eu une foule, là.
Il y a un sentiment d'intimité aussi. Mm-hmm. Puis les gens sentent qu'ils peuvent raconter des choses que peut-être ils diraient pas s'il y avait, genre, 20-30 personnes. Parce que là, 20-30 personnes dans un village comme Tête-à-la-Baleine, 30 personnes, c'est quand même beaucoup.
C'est énorme.
Puis que c'est leur mère, leur grand-mère, puis la tante, puis qu'ils n'ont pas nécessairement le goût de parler de ce qu'ils ressentent mm-hmm. avec ces gens-là. Fait que moi, tout public est correct, là, t'sais. Un sourire furtif entre deux grondements de navire. J'ai besoin de voir l'eau, mais j'en ai peur. Toutes les disparitions, le golfe avale, recrache une houle vide. Tu n'as pas la flottaison du logis de ta mère qui vogue de la Providence au village. Insulaire, tes nageoires n'ont jamais poussé. Avant, les enfants naissaient du large, ne plus voir le jour que dans l'urgence aujourd'hui. Prendre le bateau pour venir au monde, dans la ville des îles, dans une province neuve. Pourtant, home is where the heart is.
Vous venez d'entendre un reportage sur Noémie Pomerleau-Cloutier, récipiendaire du prix du Calque, œuvre de la relève à Montréal. Il nous a été présenté par Pénélope Clermont avec la collaboration de Émile No au montage.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
On soulignait la semaine dernière le décès de la grande militante franco-ontarienne Gisèle Lalonde, qui s'est éteinte le mercredi 27 juillet dernier à l'hôpital Montfort. Celui-là même dont elle a défendu la raison d'être et la survie il y a près de 25 ans, plusieurs membres de la communauté franco-manitobaine se sont rendus à l'hôpital Montfort pour signer un livre de condoléances déposé tout près du monument de la francophonie. Trois livres de condoléances ont été remis à la famille de la défunte. Le drapeau vert et blanc flottait partout avec les affiches SOS Montfort et Montfort fermé jamais. Rappelons que 10 000 francophones ontariens s'étaient en 1997 rassemblés pour manifester leur opposition à la fermeture de l'hôpital Montfort. Les funérailles de Mme Lalonde ont été célébrées le 4 août à l'église Notre-Dame de Lourdes, dans le secteur Vanier à Ottawa. Vanier, dont Mme Lalonde a aussi été mairesse, Gisèle Lalonde laisse un grand vide derrière elle. Ici, quelques témoignages recueillis par notre journaliste Marie Hillès à Ottawa.
Gisèle Lalonde fut l'une des voix et figures marquantes de l'affirmation francophone. Elle a lutté contre la fermeture de l'hôpital Montfort. Beaucoup parlent d'elle comme d'une grande dame. Françoise est bénévole à l'hôpital, elle était là le 22 mars 1997, quand plus de 10 000 francophones de l'Ontario se rassemblaient à Ottawa pour crier haut et fort « Montfort fermé, jamais ».
C'était poignant, parce que c'était plein de solidarité. On était convaincus qu'on fallait prendre notre place. Gisèle, une personne qui était inlassablement dévouée, super grand cœur, une personne qui a les pieds à terre, qui prend les gens tels qu'ils sont, très attachante, comique, elle avait un super bon sens d'humour.
Et qu'est-ce que vous gardez d'elle avec vous?
De ne jamais lâcher, d'être soi-même. Elle était tellement honnête, tellement ouverte, franche.
Laura est anglophone. Elle vient de l'est de l'Ontario, d'une communauté anglophone, mais elle vit à Vanier depuis 14 ans. C'était important pour elle de rendre hommage.
Elle était bâtisse de la communauté. C'est grâce à elle qu'une communauté qui est très francophone, qui reste francophone, et qu'on a les institutions comme l'hôpital Montfort qui est au cœur de notre communauté. Moi, je ne parlais pas de bon français quand je suis arrivée. Professeur de français qui parle seulement l'anglais. Je fais la peine pour apprendre le français. Je trouve toujours que ça vaut la peine, car maintenant, j'ai de bonnes relations avec mes voisins. Le français nous donne une langue en commun, mais ça nous donne aussi une culture d'entraide dans la communauté.
Richard est né à Ottawa. Ancien militaire, une fois à la retraite, il a décidé de revenir à la capitale nationale. Et depuis presque 9 ans, il est membre de la Fondation Montfort.
Depuis donc tout ce temps-là, je n'entends parler que de la survie de l'hôpital Montfort et des efforts de Mme Lalonde pour assurer pour les Franco-Ontariens un hôpital où on serait vraiment servi dans sa langue maternelle. J'ai constaté depuis, incidemment, que les autres hôpitaux de la ville d'Ottawa ont fait un certain effort dans le même sens, ce qui m'a réjoui énormément. Donc, bravo à Mme Lalonde.
Francine est née au Québec, mais elle est franco-ontarienne d'adoption car elle vit depuis longtemps à Ottawa.
On lui doit beaucoup. C'est une femme exceptionnelle. Ce qu'elle a fait pour ses concitoyens tout au long de sa vie, la bataille pour Montfort, SOS Montfort, qui a eu des répercussions sur la francophonie à travers le Canada, je pense que ça a vraiment changé l'histoire. Les gens ont davantage, comment dire, la volonté de se battre pour leurs droits et pour que la francophonie soit vivante en Ontario.
Avec sa disparition, Gisèle Lalonde laisse un grand vide derrière elle. Madeleine l'a rencontrée quand elle travaillait à la ville d'Ottawa.
J'ai eu la chance de jaser avec elle personnellement et je l'ai trouvée sympathique. Tu sais, des fois, il y a des gens que t'aimes en les voyant, c'est ça. C'est vraiment ça. L'hôpital, c'est merveilleux, mais ce moment-là, pour moi, c'était vraiment spécial. J'ai eu un rapport avec elle très personnel.
Qu'est-ce qu'elle laisse derrière elle?
La fierté d'être francophone.
Gisèle Lalonde est née le 28 juin 1933 à Eastview, en Ontario. Elle complète ses études en enseignement à l'Université d'Ottawa, l'enseignement dans lequel elle va faire carrière entre 1951 et 1973. Sa ténacité et son amour pour la francophonie ontarienne l'amènent à se battre pour les droits de sa communauté, une lutte qui résonne aujourd'hui à travers le Canada. On vous rappelle que c'est en gagnant la bataille contre le gouvernement ontarien de Mike Harris en 1997 que Gisèle Lalonde s'est taillé une réputation de militante en défendant les droits des franco-ontariens et en mobilisant sa communauté pour la sauvegarde du seul hôpital universitaire francophone en Ontario. Yasmina Dagri est en compagnie de Geneviève Picard, la directrice des communications et porte-parole de l'hôpital Montfort.
C'était très important pour nous, pour un petit peu vivre notre deuil. Nous savions évidemment, la vie étant ce qu'elle est, que Mme Gisèle Lalonde nous quitterait un jour, mais nous voulions absolument souligner le rôle important, essentiel qu'elle a joué dans l'histoire de l'hôpital et dans l'histoire de la francophonie canadienne.
Oui, c'est tout à fait ça. L'hôpital Montfort, vous qu'elle a sauvé il y a 25 ans, qu'est-ce que vous retenez de cette bataille-là?
Ce que Mme Lalonde nous a vraiment appris, c'est qu'il fallait ne pas hésiter à parler haut et fort. Mme Lalonde, tout le monde le dit, c'était une femme extrêmement généreuse, toujours de bonne humeur, toujours très positive. Bon, elle pouvait avoir des jours où elle se fâchait peut-être contre les politiciens, mais elle était de façon générale, c'était quelqu'un qui avait vraiment une vision positive de la vie. Mais la chose la plus importante qu'elle a transmise, c'est qu'elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Et c'est souvent ce qu'on reproche aux gens qui sont en situation de minorité, c'est qu'ils ont peur de déranger, ils ont peur de perdre des acquis. Donc, quand il y a une situation qui leur déplaît, ils préfèrent éviter le conflit pour éviter que ça dégénère. Madame Lalonde a démontré que non, il fallait protester, très fort. Et c'est pour ça que donc, déjà quelques semaines après l'annonce que le gouvernement voulait fermer l'hôpital Montfort en février 1997, quelques semaines après, 10 000 personnes étaient rassemblées au Centre civique d'Ottawa pour un grand ralliement de manifestation, un moment vraiment unique dans l'histoire de l'Ontario. Et c'était vraiment grâce à l'impulsion de Mme Lalonde. Mme Lalonde nous a appris à prendre notre destin en main et à en tant que peuple fondateur du Canada, que nous avions des droits et qu'il fallait vraiment se battre pour les protéger.
Quel est pour vous le legs aujourd'hui que Gisèle vous a transmis suite à la cause pour l'hôpital Montfort?
Ben, aujourd'hui, 25 ans plus tard, l'hôpital Montfort est plus grand et plus fort qu'il n'a jamais été. C'est vraiment remarquable. On a fait l'exercice cette année de voir 25 ans après, l'hôpital a passé vraiment un doigt de fermer ses portes. 25 ans plus tard, l'hôpital a un budget qui a doublé, triplé. Le nombre d'employés de l'hôpital a doublé. Le nombre de services offerts à l'hôpital a également explosé. On est rendu maintenant à un hôpital universitaire. On forme toutes sortes, on forme des centaines, des milliers d'étudiants, non seulement en médecine, mais en sciences infirmières, en physiothérapie, en ergothérapie, même en communication. J'ai plusieurs membres de mon équipe qui sont d'anciens étudiants de l'Université d'Ottawa qui sont venus faire des stages à Montfort et qui sont devenus des professionnels de communication. Donc, l'hôpital Montfort forme la relève, non seulement médicale, mais toute la relève francophone pour l'Ontario. Et donc, ça, c'est un héritage très important. Et ces gens-là, ensuite, peuvent aller partout en Ontario et au Canada pour être des professionnels compétents, mais surtout bilingues, capables d'offrir des services dans les deux langues officielles. Donc, ça, c'est un rôle essentiel de l'hôpital Montfort que vraiment l'hôpital a pris à bras le corps et qu'on est très fiers de continuer encore aujourd'hui. Et même ça s'est reflété dans l'ouverture il y a quelques années de l'Institut du savoir Montfort. Donc, non seulement l'hôpital offre des soins de santé, l'hôpital forme la relève, mais également l'hôpital fait de la recherche en santé dorénavant. Donc, l'hôpital Montfort est plus fort que jamais.
Alors, Gisèle Lalonde a livré plusieurs batailles durant les moments forts de sa vie. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son parcours, à part la bataille SOS Montfort?
Ben, le fait qu'elle a commencé sa carrière comme éducatrice et que pour elle, l'éducation a toujours été le fondement d'une société forte. Jusqu'à, elle était très active dans les conseils scolaires. Et oui, elle a été mairesse de Vanier. Mais pour moi, quelqu'un qui a travaillé dans le milieu des universités, qui a travaillé, qui travaille dans un hôpital universitaire, c'est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup avec moi. C'est quelque chose qui me démontre que je suis convaincue qu'un peuple éduqué est mieux outillé pour progresser. Et c'était également la vision que Mme Lalonde avait.
Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir répondu à nos questions.
Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir pris le temps de parler de cette femme extraordinaire.
Eh bien, bon voyage, Madame Lalonde. Voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On remercie notre équipe toute féminine aujourd'hui, Marie Hillès, Yasmina Dagri, Pénélope Clermont et Aurélie Nana Forson. Salutations à notre coordonnateur national francophone, Stéphane Bénard, et à tous les artistes qui nous offrent leur musique. Vous savez que ce ne serait pas pareil sans vous. Cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Nous, en espérant vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.
@CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.